sport et pas que, à situation géopolitique spéciale, chronique hors-jeu spéciale. Salah Idingaku reçoit Lucas Aubin, docteur en géopolitique avec notamment deux spécialités, la Russie et le sport. Bonjour Salah Idin.
Bonjour Djeneba. Il est spécialiste dans ces domaines, mais Lucas Aubin est surtout et aussi auteur de La Sportokratura sous Vladimir Poutine, une géopolitique du sport russe, un livre paru l'année dernière aux éditions Bréal. Ce livre, c'est 5 ans de recherche, 10 voyages en Russie et 50 entretiens. Autant vous dire que Lucas Aubin sait de quoi il parle. J'ai voulu l'interroger sur ce qui se passe au niveau du sport depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, notamment l'exclusion de la Russie de la prochaine Coupe du Monde, et savoir si ces différentes mesures et sanctions pouvaient faire fléchir Vladimir Poutine. Voici sa réponse.
Les sanctions sportives contre la Russie sont sans précédent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une rupture des ponts sportifs dans quasiment leur totalité, à quelques exceptions près, mais en gros les plus gros organes du sport mondial ont dit stop, quoi, que ce soit l'UEFA, la FIFA, le CIO, la F1, etc. Tout le monde y est allé de son message, de son exclusion, etc. On remarquera néanmoins que la Russie va quand même pouvoir participer sous bannière neutre aux JO paralympiques qui vont commencer en fin de semaine. Donc c'est quand même pas rien, donc on va pouvoir devoir suivre ça avec intérêt tout de même. Jusqu'à présent, la FIFA et le CIO, pour ne citer qu'elles, disaient généralement qu'ils étaient des organes apolitiques, neutres, qui n'avaient pas vocation à s'ingérer dans les relations internationales, etc. Et que l'objectif, au contraire, c'était de favoriser la trêve, la paix, etc. Bon, là, en l'occurrence, cette position, qui était d'ailleurs très difficilement tenable jusqu'à présent, a été complètement stoppée, quoi. Cette position est terminée. Et dorénavant, on va attendre de ces institutions qu'elles prennent position, en fait. Beaucoup de gens se demandent, mais attendez, mais du coup, pourquoi en Chine, finalement, on a autorisé les JO alors qu'il y avait, la répression des Ouïghours dans le Xinjiang, par exemple? Il y a beaucoup de gens qui vont, à mon avis, beaucoup de voix qui vont s'élever dans les années qui viennent. Ces sanctions sportives qui arrivent maintenant, si forcément elles sont le cadet des soucis du président tout de suite, parce que d'abord il y a la guerre, d'abord il y a les morts, d'abord il y a le fait de vouloir prendre Kiev, etc., bien entendu. Peut-être qu'à moyen terme, ça aura un impact puisque, lui enlever le sport, finalement, c'est lui enlever un élément de son pouvoir.
J'ai aussi voulu savoir à quel point le sport est important pour le président russe Vladimir Poutine.
Le lendemain même de son élection, son premier acte politique, ça avait été de faire venir son ancien entraîneur de judo au Kremlin. Donc son ancien entraîneur de judo qui s'appelle Anatoly Harkin. Et ça avait donné lieu à une mise en scène avec des caméras très larmoyante, Vladimir Poutine, les larmes aux yeux, son entraîneur qui le regarde avec beaucoup de fierté, etc., etc. Et voilà, ça marquait en fait finalement d'une pierre blanche le début de ces 22 années en fait de règne. Il a construit un système politico-économico-sportif, ce que j'appelle la sportokratura, donc la nomenclatura du sport en fait, qui est très très organisé, qui est un réseau d'acteurs composé d'oligarques, de sportifs de haut niveau, d'anciens sportifs de haut niveau, d'hommes et de femmes politiques qui sont là en Russie pour organiser, régenter, financer et diffuser le sport russe. Et l'objectif, évidemment, c'était d'une part d'améliorer l'image de la Russie à l'international, mais aussi d'autre part d'augmenter le patriotisme en Russie et du coup d'augmenter finalement le pouvoir coercitif de Vladimir Poutine, puisque ça avait évidemment un impact sur sa stature, disons, sur son aura. Et d'autre part, ça passait aussi par des succès sportifs et par le fait de remporter ces événements sportifs. Et donc, ça explique notamment la grande affaire de dopage que connaît la Russie depuis 2015 à peu près, ou qui a vu évidemment, qui a révélé finalement des liens entre des politiques, des sportifs, des agents des services secrets russes, du FSB, qui ont procédé à Sochi, par exemple, à des échanges d'urine, entre des urines propres et des urines contaminées, enfin, voilà.
Autre aspect, on a vu ces derniers jours des sportifs russes, des personnalités, notamment le nouveau numéro 1 mondial de tennis, Daniil Medvedev, appelé à la paix. On a l'habitude d'avoir des sportifs russes silencieux, qui ne prennent pas position. Là, on voit que les choses sont différentes.
Il y a eu plusieurs voix qui se sont élevées, et non des moindres, puisqu'on parle de sportifs très connus, à peu près une dizaine, peut-être un peu plus. C'est difficile de dire si ça va faire effet boule de neige de façon encore plus importante, mais en attendant, il est intéressant de noter que ce phénomène est le premier par son ampleur à arriver sous l'ère de Vladimir Poutine. Jusqu'à présent, c'était une voix de temps en temps. Là, on a vraiment un groupe de personnes qui s'est élevé contre ça. Donc, à voir si ça va avoir, si ça va justement avoir un impact sur la population russe, ce qui pourrait être sensible à ces discours, ou pas du tout, puisque l'espace informationnel russe est de toute façon très contrôlé. Est-ce que les informations finalement ne seront pas filtrées?
On pourrait encore parler et dire beaucoup de choses sur ce qui se passe actuellement. L'actualité, la géopolitique et le sport seront sûrement de nouveau à la une ces prochains jours, ces prochaines semaines même. On va se quitter avec une citation de Nelson Mandela. Le sport a le pouvoir de changer le monde. Je vous laisse méditer là-dessus.
Merci Salah Dingaku.
Africa Radio.
Hors jeu.
Avec Salah Dingaku.